Merci, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, j'exprimerai au nom des cinq co-facilitateurs notre extrême reconnaissance à votre endroit pour nous avoir exprimé vos orientations. Et je remercie chaleureusement mes collègues co-facilitateurs, son excellent Monsieur Salomon Hanek, représentant permanent du Cameroun, son excellente Madame Claudia Ventes, représentante permanent du Chili, son excellence Monsieur Jérôme Bonafont, représentant permanent de la France, et son excellente Madame Hant Dahamurta, représentante permanente du Qatar, pour leur engagement et leur participation approfondie à notre effort collectif. Les remerciements spéciaux s'adressent à toute l'équipe des co-facilitateurs dont l'aide a été déterminante pour nos travaux. Et Monsieur le Président et le Président de HCDH, nous vous remercions. Nous avons bénéficié de la vision de Éric Destounet et nous exprimons toute notre reconnaissance à l'Académie de Genève pour leur aide. Enfin, nous remercions toutes les parties prenantes qui ont participé au débat, les États membres, les ONG et les experts. La liste des crédits sera intégrée à la déclaration qui sera téléchargée sur le site web. Je vais vous donner quelques informations brèves des co-facilitateurs, à commencer par notre mandat. Monsieur le Président, je rappellerai que dans votre lettre du 14 février 2024, vous nous avez désigné les cinq co-facilitateurs, un pour chaque groupe régional, afin de faciliter le dialogue et la discussion sur la contribution de Genève au processus de l'Assemblée générale et réviser le statut du CDH. Notre perception commune était que 20 ans quasiment après sa création, le CDH s'est acquitté de son mandat, mais s'est heurté à des difficultés nouvelles, étant donné qu'il est devenu un organe quasi permanent en traitant des questions spécialisées dans le cadre de la multiplication des conflits et des crises. Les travaux du Conseil semblent toucher ses limites étant donné la crise des liquidités et les difficultés budgétaires du HCDH. Étant donné la résolution 65-280 de l'Assemblée générale, nous avons l'occasion de nous pencher sur tous les points difficiles et régler les difficultés qui entravent les travaux du Conseil. C'était les raisons pour lesquelles une équipe spéciale a été créée afin de faire le bilan des réalisations du Conseil sur chacun des domaines clés de son mandat. Permettez-moi de souligner que nous, les co-facilitateurs, nous reconnaissons qu'il n'y a pas eu de rôle officiel prévu dans la résolution de l'Assemblée générale pour que le CDH réexamine son statut. Mais nous sommes également d'avis que le CDH a une obligation morale de contribuer au processus en procédant à une auto-évaluation dans le contexte de son statut actuel et l'impact que ce statut a pu avoir sur son travail. Cette auto-évaluation a été conçue pour permettre aux membres du Conseil de dépasser les accusations de sélectivité en traitant des problèmes auxquels nous nous heurtons et en examinant les opportunités futures. Nous n'avons jamais voulu résoudre la question du statut du Conseil en elle-même, ni de savoir s'il était nécessaire ou pas d'examiner le paquet institutionnel. Plutôt, nous avons décidé de traiter de toute une série de questions relatives aux mécanismes du Conseil et du statut en parallèle au processus des co-facilitateurs, notamment en ce qui concerne le PU, en tenant compte des autres processus de l'ONU tels que le sommet du futur. À cette fin, nous avons mené des consultations aussi larges et ouvertes que possible, faisant participer les États membres de chacun de nos groupes régionaux et de la société civile. Notre travail s'est développé en diverses étapes. Premièrement, nous avons décidé de méthodes de travail communes. Nous avons décidé d'élaborer un questionnaire qui serait l'outil principal pour recevoir les recommandations, avis de toutes les parties prenantes, en commençant par les États membres de chaque groupe régional. Une fois que le questionnaire a été approuvé par nous cinq, la deuxième étape a consisté à présenter aux groupes régionaux et à la diffuser aux États membres par le biais de leurs coordonnateurs en fixant un délai de réponse. Troisième étape. Prorogation de nos consultations pour impliquer des organisations de la société civile et les titulaires de mandats selon une procédure spéciale. Donc les organisations de la société civile, réunion en face à face, tout ceci s'est tenu avec un échange approfondi de vues sur le sujet avec le président du comité de coordination de la procédure spéciale. Monsieur Chan. Enfin, la dernière étape a consisté à traiter ces réponses et toutes les observations par les diverses parties prenantes pour voir comment les refléter de la façon la plus concise et complète que possible, en résumant les conclusions principales et en élaborant un rapport. Ce rapport, intitulé « Contribution de Genève au processus de l'Assemblée générale pour examiner le statut du CDH » est à votre disposition, Monsieur le Président. Il s'agit, à votre discrétion, d'envisager les mesures suivantes à prendre concernant sa conclusion. S'agissant du résultat de nos travaux, en bref, outre les avis de certains États membres selon lesquels le Conseil des droits de l'homme n'aurait pas dû participer à un examen sur son statut et que ce processus doit se confiner à l'Assemblée générale à New York exclusivement, le résultat que nous avons reçu d'un certain nombre d'États membres nous ont permis de parvenir aux conclusions suivantes. En dépit de son statut d'organe subsidiaire, le Conseil est un organe qui fonctionne. Dans un monde de plus en plus polarisé, c'est un succès en soi. Oui, le succès du CDH a constaté un élargissement de ses activités, ce qui a rendu la participation de tous plus difficile. Donc, trois sessions régulières par an, alors que la multiplication des crises et des conflits et l'apparition de nouveaux problèmes conduisent à un élargissement de l'ordre du jour. Au fur et à mesure où les attentes augmentent, la majeure partie des parties prenantes ont procédé à des consultations pendant le processus des co-facilitateurs et cela a demandé un renforcement du Conseil. En se fondant sur les réponses substantielles reçues des parties prenantes concernant la révision du statut, cela pourrait permettre d'améliorer l'efficacité et de renforcer l'impact des travaux du Conseil. Ces résultats pourraient être réalisés soit comme résultant d'un statut amélioré à un niveau d'organe principal des Nations Unies ou bien tout simplement en proclamant son statut de facto au sein du système des Nations Unies sans pour autant modifier la charte. Certaines parties prenantes pensaient qu'il était préférable de maintenir le statut actuel alors que des améliorations pourraient être apportées indépendamment. Quelle que soit la voie choisie, il y a eu un accord transrégional sur la nécessité de renforcer l'autonomie financière du Conseil. Voilà nos conclusions principales, Monsieur le Président, et les résultats des efforts consentis, et je vous remercie de votre attention.